Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Le but de ce podcast est de vous inspirer en vous montrant des personnes ordinaires qui se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Monsieur Thierry Geoffroy, bonjour.
Bonjour Tanguy.
Ça va?
Comment vas-tu?
Très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro. Et là, on est dans un format un peu différent, toujours à LFL Studio. Je pense que les gens voient un autre spot que d'habitude. Et là, l'idée, c'est un peu de mettre en avant les adhérents de Black Network pour montrer que on a des experts, des véritables experts qui sont au service de la communauté et des gens qui connaissent leur métier. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être bien que tu viennes pour présenter un peu ce que tu fais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, toi, s'il te plaît?
Ok, super. Ben déjà, c'est un grand honneur pour moi d'être présent, puisque Kilimanjaro et ton podcast, c'est une référence. C'est une référence pour la communauté. C'est important d'avoir un média qui met en avant justement les membres de la communauté afro et qui permet aussi justement d'innover et de plus en plus de contribuer finalement à notre émancipation.
Merci.
Donc, c'est un grand honneur.
Merci.
Alors pour moi, qui suis-je? J'ai 40 ans. Je suis père de famille, marié, et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les groupes dans le développement de leur chiffre d'affaires et de leur stratégie de communication, notamment leur image de marque.
Mmh.
Du coup, ça fait maintenant, ça a commencé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, en tout cas, sur le volet entrepreneurial, puisque je suis passé par différentes activités. Je suis passé, comme tout le monde, à un moment, de manière un petit peu alimentaire, quand on est étudiant, on va faire caissier, dans des grandes enseignes qu'on connaît, des monsieur bricolage, des carrefours, peu importe, des structures.
Mmh.
Et puis, au fur et à mesure, passer des diplômes, fais du droit, je fais un master, en économie et sociale, des études dans des écoles. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans l'immobilier.
Mmh.
Donc j'ai lancé une structure qui faisait 700 000, on est passé à 2 millions.
OK.
Et puis après j'ai été débauché et là j'ai été en responsabilité sur des contrats sur la base spatiale en Guyane notamment.
Okay.
Sur lesquels j'avais une équipe à manager, c'était ma première expérience. Donc, une équipe à manager de 60 personnes.
Mmh.
Donc, avec l'armada, tout ce qu'il fallait bien, des contrats industriels, des week-ends passés à négocier des contrats avec les pontes de l'ESA, du CNES.
Okay.
Donc, ça forme.
D'accord.
Et puis, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Voilà, à travailler avec des grands comptes. Donc, on était 60. Après, je suis passé à 400 personnes en responsabilité. On est passé d'une société à 12 jusqu'à plus de 20 millions.
Mmh.
Donc, de chiffre d'affaires. Donc, de grosses responsabilités. Et puis au bout de 4 ans, le 25 février, le 25 plutôt décembre.
Okay.
Donc, jour de Noël. C'était une société qui était un petit peu compliquée, donc il y avait des mouvements de grève parce que on a dû faire des remaniements sociaux.
Mmh.
Et donc les médias avaient l'habitude justement de m'interviewer puisque j'étais directeur du développement et de la communication, et puis je devais faire un compte rendu, un communiqué de presse.
Mmh.
Et là j'ai dit stop, j'en avais assez.
Mmh.
J'ai dit j'en ai assez de travailler pour que quelqu'un d'autre vive ses rêves.
Mmh.
Et que moi je ne vive pas les miens.
Ok.
Donc j'ai décidé de monter ma structure. J'avais 2-3 idées en tête. J'avais pas encore le courage de me lancer.
Mm-hmm.
Et donc du coup j'ai pu être accompagné. J'ai pu justement avoir des personnes qui ont pu m'aider pour me donner ce mindset de me dire il faut pas avoir peur de l'échec. Faut avoir confiance en soi, surtout quand on est compétent et qu'on a déjà eu des résultats pour d'autres. Ça veut dire qu'on peut en avoir pour soi.
Exactement.
Et c'est là que j'ai décidé de monter ma boîte et que depuis, j'ai continué finalement à accompagner ces grandes structures.
Mmh.
La dernière structure d'ailleurs pour laquelle j'étais employé, on est associé aujourd'hui.
Ok.
Voilà, on a pu et je me suis associé avec d'autres personnes dans différentes compétences.
Mmh.
Et du coup aujourd'hui, Je suis à la tête depuis plus de 6 ans. Je suis à la tête d'un holding qui est spécialisé dans le marketing, la communication et la vente à travers différentes structures qui sont plutôt, elles, dans le coaching, dans le conseil et dans les solutions digitales et de vente.
D'accord. Qu'est-ce que tu faisais pour ces grands comptes-là à l'époque?
Alors, qu'est-ce que je faisais pour ces grands comptes? En fait, ce que je m'occupais donc de leur marketing, de leur communication et de leur vente.
D'accord.
Ça, ça a pas trop changé. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est
quand
ça.
On travaille dans une structure, en tout cas, qui fait plus de 10 millions d'euros, qui a des employés, on travaille beaucoup déjà sur de la communication interne. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir vulgariser les informations pour l'ensemble de son personnel, pour les tierces parties, pour ses fournisseurs. Il faut structurer l'image de marque de la compagnie. Et pour ça, eh bien, il y a des codes. Donc, tout va dépendre effectivement du marché de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui travaille sur des marchés publics? Est-ce que ce sont des entreprises qui travaillent plutôt avec du particulier?
D'accord.
Moi, je travaillais avec une entreprise qui faisait ce qu'on appelle du B2B. D'accord. Donc, qui travaillait plutôt avec d'autres entreprises. Donc, c'était une société qui faisait du nettoyage industriel, mais qui faisait aussi, qui faisait hygiène, propreté, environnement. Donc, il y avait à la fois un volet de distribution, à la fois un volet, donc, nettoyage industriel, notamment dans des salles blanches pour, notamment la base spatiale. Et puis, il y avait aussi des nettoyages de bureaux tertiaires. Voilà. Et il y avait aussi des services de, comment on appelle ça, de collecte, voilà, d'ordures ménagères. Donc, avec de gros investissements avec les camions, voilà, tous ceux qui s'occupent de faire les services de voirie. Et du coup, on avait un personnel qui était pas forcément, un personnel qui était une catégorie, c'était une catégorie socio-professionnelle assez populaire. Et du coup, ben, il fallait justement vulgariser tous ces process, toutes ces choses-là pour que les chantiers soient bien faits, mettre les normes ISO, voilà, mettre le MAS, ce qu'on appelle le, alors ça fait un, c'est un petit peu lointain pour moi, mais en tout cas, ce sont des certificats qui permettent de garantir une qualité, une satisfaction pour les clients.
D'accord.
Il fallait pouvoir communiquer ça aussi pour les clients. On avait pour leur dire, écoutez, voilà, travaillez avec notre société parce qu'on est certifié, parce que nos agents ont aussi des formations, etc., etc. Donc, c'est une communication plus institutionnelle qui permettait de faire, de donner une image de marque et qui permettait, en tout cas, d'avoir des clients, mais aussi quand on répond aussi à des appels d'offres, notamment, eh ben, d'avoir, de gagner des points sur le volet qualitatif.
Et dans ce parcours-là, toi, t'as toujours gravi les échelons, on peut dire.
Oui.
Quelle était ta singularité et quelle était cette expérience, cette expertise-là qui était valorisée par rapport à tes collègues et qui fait que toi, tu as pu gravir les échelons?
Alors, je pense que ce qui m'a toujours, et depuis tout petit, moi, j'ai jamais été pour les titres.
D'accord.
D'accord. C'est-à-dire président, directeur, tout ça. Bon. Par contre, ce que j'aime fondamentalement, c'est fédérer. Voilà, c'est fédéré, c'est structuré et développé. Et je pense que ce qui a toujours plu, en tout cas, à mon entourage, aux personnes qui me font confiance aujourd'hui pour me placer, en tout cas, des postes de responsabilité, et aussi à mes collaboratrices et collaborateurs, c'est que il y a ce capital confiance. Et ça, la confiance, c'est quelque chose qui est inhérent. En tout cas, et qui précède, on va dire, une personne. D'accord. Donc, moi, aujourd'hui, c'est cet avantage-là, je pense, que j'ai eu, c'est que déjà, les personnes que j'ai pu rencontrer et ce que j'essaie d'inspirer, c'est premièrement de la confiance, du respect et de tenir mes engagements. Donc, ça veut dire que commercialement, pour le sujet qu'on va parler sûrement après, ça aide. Parce que quand je vais promettre quelque chose à un client qui ne me connaît pas vraiment, peut-être qu'il n'a pas encore entendu parler de moi, mais que je vais dire que voilà, on part de ce point A pour arriver à ce point B, je sais comment l'y emmener, comment lui faire avoir confiance là où je vais l'emmener.
D'accord.
Parce qu'au départ, elle n'a pas de preuve, on n'a pas encore travaillé ensemble.
Bien sûr.
Donc, il ne peut que me faire confiance.
Bien sûr.
Donc, si je peux dire que j'ai une qualité principale, c'est
de créer de la
confiance.
Là, je suis obligé de te poser la question. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder plus tard, mais je te la pose maintenant. C'est quels sont les fondamentaux pour créer de la confiance? Comment est-ce que, parce que notre cible, donc c'est bien souvent des entrepreneurs ou des personnes qui aspirent à entreprendre, ou même je pense que la confiance est aussi important quand tu es en entreprise, quand tu es salarié. Qu'est-ce que tu mets en place? Quels sont les fondamentaux pour créer de la confiance chez ton interlocuteur, chez ton client, chez ton partenaire?
Alors, Ça va dépendre. Alors, si on parle de, si on reste sur le volet professionnel, sur le volet professionnel, en fait, il y a plusieurs clés. Mais c'est la confiance. Déjà, il faut savoir que ça se travaille.
Bien sûr.
Ça se travaille. Alors, aujourd'hui, dans le conseil que je peux donner, en tout cas, à une personne, c'est déjà de travailler sur son image. Donc, c'est déjà, ben, la première chose, c'est qu'on sait qu'on va monter un business ou qu'on a déjà un business. C'est déjà de voir quelle est sa présence numérique. Aujourd'hui, on a tous en général un compte Facebook, un compte Insta, enfin,
Facebook
quel que
encore,
soit.
Tu penses?
Facebook, c'est notre génération, hein, quand même. Hein. Et en tout cas, moi, mes clients sont tous connectés sur Facebook.
OK.
Parce que c'est son, parce que moi, j'ai 40 ans. Moi, le cœur de cible que j'ai des industries, c'est pas forcément des trop jeunes.
OK.
Donc, eux, ils sont connectés dessus. Donc, on pourra en reparler, mais tout va dépendre de la cible.
Ouais. D'accord? Tout va dépendre de la cible.
En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir en tout cas une présence déjà qui soit cohérente. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, on a une promesse qui est de vendre du bon pain, on a comme message d'être conseiller ou juridique ou peu importe, c'est déjà d'avoir tous ces réseaux qui soient en cohérence avec son activité. Ça va être de demander des recommandations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir très peu de clients, mais que ces clients-là, par contre, recommandent. Et donc, que ces clients-là laissent des témoignages. C'est pour ça que souvent, aujourd'hui, on parle de la guerre des avis Google. Pourquoi on parle de la guerre des avis Google? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va surfer sur Internet, il y a eu tellement d'arnaques, il y a eu tellement de déceptions que c'est compliqué pour les gens de se dire, quand je vais choisir une entreprise, est-ce que cette entreprise-là, elle a vraiment sa promesse, elle est vraiment, est-ce que je peux vraiment avoir confiance? Et en fait, le seul moyen d'avoir confiance, c'est effectivement de faire des vérifications. Donc, c'est pour ça que quand on va acheter surtout, et plus les biens sont élevés et chers, et plus on demande des références. D'ailleurs, la première des choses, que ce soit dans des marchés publics ou que ce soit pour des produits sur Amazon ou autre, qu'on va acheter, eh ben, on regarde les avis. Moi, je vois ma femme, avant qu'elle achète quelque chose, la première chose qu'elle fait, c'est avoir regardé les avis de tout le monde. Voilà.
Quand tu fais de la vente en ligne, c'est fondamental.
C'est fondamental. Mais c'est fondamental, en fait, dans le business. C'est pas que la vente en ligne, c'est fondamental dans tout. Quand on va, quand moi, aujourd'hui, voilà, je vais voir un client, je fais la présentation de l'entreprise, je lui montre les références et les yeux s'écarquillent toujours quand ils voient les références. Ils disent, et c'est d'autant plus crédible quand on a à voir un client et qu'on a une cible et qu'il voit que vous avez déjà travaillé avec des entreprises du même secteur.
Bien sûr, bien sûr.
Donc ça, déjà, c'est travailler son image de marque. Et puis après, évidemment, il y a des techniques aussi où la confiance, déjà, elle s'instaure par les questions qu'on va poser. C'est-à-dire que c'est poser des questions, c'est comme tu le fais pour moi, tu poses des questions, on apprend à se connaître. Et l'idée, c'est pas de chercher à vendre, déjà chercher à connaître l'autre, chercher à connaître son client, chercher à comprendre quelles sont ses problématiques, ses enjeux, quels vont être aujourd'hui ses objectifs, sa vision, etc., etc. C'est poser le maximum de questions. Mais c'est en posant le maximum de questions que là, on peut savoir effectivement à un moment si on est dans un optique de vente, voir là où il y a la peine. Tant qu'on n'a pas trouvé la peine profonde, et là, c'est là que vient la PNL, vient des choses, des techniques.
On va en parler après. Parce que là, on bascule sur la vente. Mais avant ça, même pour la confiance. Donc, tu as dit, le premier élément, c'est la réputation. Et la réputation passe par son image de marque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments liés au style vestimentaire ou au code de l'entreprise? Moi, je sais que je me suis retrouvé une fois dans un gros dîner et tout le monde était bien habillé, mais j'étais le seul avec un jean clair. Et je me rends compte, quand j'ai vu que tout le monde était habillé comme ça, je me suis dit, et je me sentais même plus à l'aise après pour parler avec les gens. J'avais l'impression d'être, tu vois, ça a nourri mon syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, est-ce que il y a pas des codes aussi qui permettent de créer la confiance? Parce qu'on dit qu'on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Je sais pas, est-ce que t'apportes des éléments sur ces sujets-là aussi?
Alors, je peux apporter des éléments, mais je t'avouerai que plus les choses avancent, plus... alors, il y a des milieux pour lesquels je vais te dire que oui, les codes vestimentaires comptent énormément. Quand on est dans le milieu bancaire, par exemple, quand on est dans certains milieux, oui, ça va compter. Mais, par exemple, si on est un start-upper ou qu'on est dans le métier de la com ou du conseil ou autre, il faut être habillé de manière correcte. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ça passe d'avoir le jean basket.
Oui, par exemple, totalement.
Tu vois, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la vision un petit peu américaine des choses, les plus gros patrons, ils sont en jean basket, ils sont en t-shirt, ils ont un code vestimentaire qui est simple, en fait.
Mais du coup, dans ces situations-là, est-ce qu'on peut même pas dire que c'est l'inverse? Si t'es dans un milieu start-up et que t'arrives en costume, cravate jusque-là, c'est là que t'as plus les codes au final.
Exactement. Mm. C'est pour ça que c'est important. Alors, moi, j'ai pas à prendre mon cas de figure parce qu'aujourd'hui, alors oui, en fonction des occasions, je vais essayer quand même de déjà voir et de m'adapter. C'est pas, je vais dans une réunion très, très professionnelle. Je vais quand même y aller en chemise. Voilà. Mm. Mais par exemple, je sais que de plus en plus, j'essaie de casser ce code-là. La preuve, j'ai des locks. Ouais. On pourrait très bien me dire que je suis un professionnel, j'ai des locks, je suis black, et puis je vais pas aller voir certaines grandes boîtes ou pas, et que je suis dans le sud de la France et que voilà, bref, je pourrais avoir tous les syndromes de l'imposteur et tous les syndromes de comment on va appeler ça, de complexe d'infériorité, vois tous ces trucs là. Mais moi j'ai décidé de casser tout ça justement. Mmh. Pour moi c'est un combat. Et c'est un engagement, c'est du militantisme de dire que je suis comme je suis. Mmh. Et il faut que les gens aient travaillé avec moi pour ce que je suis.
D'accord.
Si aujourd'hui ma coupe de cheveux, si aujourd'hui mon style te plaît pas et que c'est que ça qui fait que tu ne veux pas travailler avec moi, eh ben, c'est pas grave.
Mmh.
Tu comprends?
Mmh. Ouais, non, je comprends.
Mais ça, c'est mon positionnement.
Ouais.
Tu vois? Après, je pense vraiment que ce qui va compter pour quelqu'un, effectivement, qui marche, c'est déjà la confiance en soi.
Mmh.
En fait, le fondamental, il est là. Alors, je sais pas si après on va en parler plus profondément, mais effectivement, sa réputation, c'est quelque chose d'important, mais ça se travaille. Et ça, on peut le demander parce que c'est son professionnalisme. Mmh. Il fait ça, mais on peut être très bon dans son métier, mais ne pas avoir confiance en soi pour aller vers l'autre, pour aller vers d'autres clients en se disant que je vais être juste passif et je veux que les clients viennent à moi. Pourquoi? Parce que je veux rester dans ma grotte, je suis un tech, parce que je suis un artiste, parce que peu importe, et que je veux juste que la recommandation me ramène du monde.
Mmh.
Le problème, c'est que je pense pas qu'on peut passer le cap du million en se disant que on reste que sur de la reco sans qu'à un moment il y ait un vrai effort marketing, commercial ou de communication, quoi.
Mmh.
Et à un moment, on est obligé d'aller au-delà de tout ça, de se montrer. Mmh. Parce que si on fait pas ça, sauf si on est sur un produit qui vaut un million et t'as fait une vente et puis bon, voilà, tu l'as
ça
atteint.
Ça suffit. Ouais.
Bon, il y en a pas non plus des masses.
J'en connais peu.
Très peu. Il faut aller au charbon, quoi.
Mmh.
Et donc, pour ça, il faut développer sa confiance en
soi. Ouais. Pour aller au charbon, voilà, c'est ça. Donc, pour aller au charbon, tu dis, il faut faire du marketing, du commercial et de la communication. Et pour toi, la confiance en soi, c'est la base qui permet d'aller vers l'autre. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est toi qui accompagnes aujourd'hui, toi qui as un organisme de formation aussi, la DCA dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. T'en as parlé? Je sais pas si t'en as parlé.
Non.
On en a parlé en off.
Non.
D'accord.
Ouais.
Bon, bah, d'abord, je te laisse présenter ça, après, je t'expliquerai.
Okay.
On expliquera. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais?
Alors moi maintenant ça fait alors que comme j'expliquais en fait donc j'ai à la tête d'un holding donc j'ai l'agence de communication qui est plutôt grand compte donc une segmentation plutôt grand compte qui est B2B Conseil avec lequel je suis associé donc ça a été monté il y a 10 ans, il y a 6 ans je me suis associé avec Vincent Reboul qui est un bon pote à moi.
D'accord.
Et donc qui est un super tech. J'ai monté ma société en parallèle qui est elle plutôt spécialisée dans visibilité et affichage donc aujourd'hui j'ai un peu aussi, les gens connaissent JC2Co ou bien tous les l'affichage dynamique qu'il y a dans les centres commerciaux, qu'il y a dans les aéroports et autres. Donc j'ai créé ma propre régie aujourd'hui et donc je suis dans des centres commerciaux aussi en Outre-mer.
D'accord.
Et du coup je propose aussi des solutions de visibilité pour les petits commerçants qui là veulent faire de la captation de données et autres. Voilà. Mais en fait le point commun de tout ça, pour revenir un petit peu dans le côté un peu fédérer les gens et puis aider le plus grand nombre finalement à réussir, je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose notamment pour des employés, des personnes qui ont une idée, des porteurs de projets qui ne savaient pas par où commencer. Mais aussi des gens qui ont lancé leur projet et qui plafonnent en fait, qui plafonnent justement, qui n'arrivent pas à en vivre finalement de leur art, de leur métier, de leur passion. Et c'est pour ça qu'avec deux autres amis, donc qui sont aussi d'origine guadeloupéenne, quand on s'est rencontrés en fait, Alex, donc qui est mon associé avec son frère Morgan, donc qui sont deux experts en fait du marketing de réseau et aussi du marketing digital. Donc on a décidé en fait d'associer finalement nos compétences pour accompagner le plus grand nombre de personnes finalement à se développer dans matière de marketing, communication et vente.
Mmh.
Et du coup, on a créé la Digital Consulting Academy.
Voilà, la DCA.
La DCA.
D'accord. Et donc, dans la DCA, la fameuse, qu'est-ce que vous donnez comme formation? Ce que je comprends, c'est qu'il y a du coaching.
Ouais.
Parce que Il faut que la personne ait déverrouillé des verrous mentaux pour pouvoir ensuite aller entreprendre.
C'est ça.
Et après, vous accompagnez sur des sujets marketing, communication et sales. C'est ça?
Exactement. Exactement.
D'accord. En coaching, je sais que c'est pas ton domaine à toi, précisément, il me semble. Hein. Toi, c'est plus la vente.
Moi, mon domaine, c'est la vente.
OK.
C'est le développement commercial et marketing. Voilà.
D'accord. Mais est-ce que tu peux partager déjà quand même quelques clés que vous apportez sur le coaching pour que les gens comprennent un peu ce que vous dispensez comme formation?
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le coaching, en fait, c'est que c'est un process qui est continu.
Mmh.
À la différence d'une formation où là, la formation, ça va être pendant un temps donné.
Mmh.
D'accord? Donc, il y a deux volets sur la DCA. Il y a un volet coaching qui est plus pour donc les personnes, justement, une typologie. Moi, je parle toujours de segmentation parce qu'au moins, il faut qu'il y ait une cible dans le business.
Mmh.
Donc, le coaching est plutôt fait pour des personnes, en tout cas, dans ce qu'on propose dans la DCA, des personnes vraiment qui ont une idée, qui sont des porteuses de projets et qui sont plutôt la typologie salariée qui a besoin de se lancer.
D'accord.
Et qui ne sait pas comment se lancer, qui manque un peu de confiance en soi parce qu'elle se dit, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Est-ce que j'ai confiance en moi ou pas?
Mmh.
Est-ce que ça va marcher ou pas?
Mmh.
Parce qu'il y a, il y a effectivement la peur de l'échec, mais il y a la peur du succès aussi.
C'est vrai, effectivement.
Parce qu'il y a des membres de la famille, des fois, en fait, il y a des personnes, on remarque finalement dans les accompagnements qu'on fait que souvent, ce qui bloque que les gens ne vendent pas, c'est parce qu'ils n'ont premièrement pas confiance en eux.
Mmh.
C'est pour ça que le projet d'essai, on l'a lancé il y a un an, il y a un an de ça. C'est un projet sur lequel, au départ, en fait, plus on accompagnait donc ce premier type de personnes qui étaient finalement en organique, c'est-à-dire des gens qu'on connaissait, qui avaient une idée, qui voulaient se lancer un peu. Et en fait, on se disait, mais en fait, ils n'ont pas de résultats comme on voudrait, quoi. Il y en a quelques-uns qui ont eu des bons résultats parce qu'ils étaient coachables. Mais ceux qui n'ont pas eu de résultats, c'est qu'ils n'ont pas réglé déjà avant tout leur développement personnel.
D'accord.
Donc, la clé vraiment pour quelqu'un qui doit se lancer, je pense, c'est déjà de travailler personnellement, c'est de faire du développement personnel, parce que le développement personnel va permettre de donner cette résilience et aussi cette ténacité du lancement d'une activité.
Mmh.
Parce que c'est dur, quoi.
Mmh. Et qu'est-ce que tu appelles développement personnel? Moi, ce que j'ai identifié là-dedans, c'est, parce que je fais du coaching moi-même, enfin, je suis coaché moi-même, c'est d'identifier quelles sont les limites à la progression et qu'est-ce qui, dans notre personnalité, nous empêche d'atteindre nos objectifs et de travailler là-dessus pour, bah, je reviens encore sur ce mot, déverrouiller, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai compris. C'est à un moment, c'est comme si tu pop-up quelque chose, quoi. Tu vois, t'as débloqué quelque chose et ce verrou, ce frein à main que t'avais avec lequel tu circulais, bah, t'as réussi à le déverrouiller. Est-ce que c'est ça un peu?
Bah, en fait, le développement personnel, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le développement personnel, finalement, doit t'emmener à ce qu'on appelle l'ikigai, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est un terme qu'on entend de plus en plus.
C'est ça.
Et l'ikigai, c'est effectivement le fait de savoir ce qu'on veut faire, de faire ce qu'on aime,
mm-hmm.
et surtout d'en vivre.
Ouais.
Parce que c'est pas évident. Tu peux aimer faire quelque chose, mais finalement, tu le fais pas au quotidien et surtout, t'en vis pas, quoi.
Mm-hmm.
Et l'idée, c'est d'avoir cet alignement aussi bien personnel que professionnel. Ça, c'est très compliqué,
mmh.
parce que déjà, pour avoir cet alignement-là, il faut se connaître.
Ouais, vraiment.
Et la société, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans une fracture, enfin, du coup, dans un combat entre qui suis-je et qu'est-ce que la société aussi veut que je sois. Tu
intéressant.
Vois
intéressant.
Et si on n'a pas, en fait, compris que c'est comme pour un produit aussi, et que quand qu'on a un échec professionnel, que ça ne veut pas dire qu'on est personnellement mauvais.
Mmh.
Il faut savoir se détacher en fait humainement du professionnel et aussi de ce qu'on va, de ce qui peut nous arriver.
D'accord.
Tu vois?
Mmh.
Et c'est pour ça, c'est quelque chose qui, c'est bien d'être aidé par des spécialistes, permet de dire aujourd'hui on est dans souvent des schémas de reproduction parce que les parents ont fait ci, ils ont fait ça, parce que souvent on a entendu depuis l'enfance, il suffit qu'on tombe sur des parents qui étaient pas équilibrés et du coup ça déséquilibre l'enfant.
Mmh.
Comment? Donc faut se détacher un petit peu de tout ça, de la société, de l'environnement des fois qui peut être nocif, de l'environnement familial qui peut être aussi pas forcément stimulant ou motivant, pour retrouver sa nature propre, voir ce qu'on est, ce qu'on aime, et en fait ça revient finalement dans le subconscient et dans l'imaginaire en fait qu'on a. On se dit mais en fait ce que j'aime moi c'est peut-être dessiner, quoi. Alors que t'es dans un truc où t'es dans des maths et dans, mais en fait en réalité, ce que t'aimes, c'est dessiner. Pourquoi t'aimes dessiner? Parce que t'es créatif. Et pourquoi t'es créatif? Et en fait, c'est d'aller creuser tout ça, de prendre ce recul.
En fait, c'est plus se connaître soi-même. C'est ça, en fait, que tu veux dire. À partir du moment où tu te connais, tu fonctionnes mieux. Et donc, le coaching que vous mettez en place doit avoir vocation à vous permettre de mieux vous connaître.
C'est ça. Okay. C'est ça. C'est ça.
D'accord.
De mieux vous connaître, de savoir effectivement que la première phase, en tout cas quand tu es en phase déjà de lancement d'activité, que c'est pas encore très clair, c'est déjà de te connaître toi bien, de faire le point déjà un petit peu sur ta vie, est-ce que c'est bien aligné ce que tu vas faire, est-ce que tu es prêt aussi à te dire que ça sera pas facile.
Mm-hmm.
Et qu'une fois que tu as commencé, là effectivement, là tu vas être accompagné sur ça. Ensuite, on va travailler ton image de marque, ce qu'on disait, pour que ce soit cohérent,
mm-hmm.
que les messages soient bien clairs, pour que quand quelqu'un vienne, que tu saches pitcher.
Mm-hmm.
Tu passes pas par parce que tu sais comment c'est, quand t'es un passionné, t'es bavard.
Ouais. Trop.
T'es trop bavard.
Trop.
T'écoutes pas.
Ouais.
Donc t'es pas dans le domaine de vente, t'es juste dans un truc où tu vas expliquer comment les choses fonctionnent, mais tu vas pas donner en fait l'usage. Et le bénéfice que l'autre va avoir en fait à signer avec toi, tu vois, et du coup tout ça s'apprend sur les méthodes de setting, ce qu'on appelle le setting closing. Le setting, c'est faire en sorte d'attirer les gens à toi, c'est de savoir prospecter, c'est de comment prospecter sans être un bourrin, quoi, tu vois. Et puis après, effectivement, t'as la phase de closing où là tu poses des bonnes questions pour que tu puisses, de manière éthique en tout cas, proposer ta solution.
Ouais. Et on sent dans ta manière de parler que toi, t'es un sales. Parce que tous les exemples que tu donnes sont très adaptés à la vente, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les vendeurs. non pas que je trouve que ce soit pas un beau métier, au contraire. Mais je pense que les vendeurs, enfin, les mauvais vendeurs, en tout cas, m'exaspère, parce que on dirait qu'ils veulent juste te caler une proposition et te caler un produit ou un service sans avoir compris même toi quel est ton besoin, quels sont les freins que toi t'as qui font que jamais t'achèteras leur service ou leur produit. Et donc j'ai l'impression que c'est comme des autistes, tu vois, qui sont juste en train de parler sans tenir compte de la personne qui est en face, même parfois de son langage. Des fois, j'essaie d'avoir un langage corporel pour dire à la personne, non, mais ton truc, ça m'intéresse pas. Mais les gens ne le comprennent pas. Qu'est-ce que toi, t'enseignes à tes coachés ou plutôt à tes étudiants, on va dire, qui fait la différence sur ces problématiques-là?
Les questions.
Mm-hmm.
Les questions. Ce que je dis, alors je vais prendre, j'aime bien les exemples. J'aime prendre un exemple tout bête. J'ai un coaché qui me dit, tu sais, je dois aller dans une soirée et j'ai mon concept que j'aimerais proposer, mais je sais pas comment le proposer.
Ok.
D'accord. Et je lui dis, ok, fais comme si t'y allais. D'accord. Donc j'aime bien faire des cas pratiques. Je lui dis, quand tu y vas, qu'est-ce que tu fais? La personne me dit, je sais pas. Je dis, déjà tu dis bonjour.
Ça commence par le commencement.
Tu dis bonjour.
Bien sûr.
Je m'appelle Valérie, Michel, et je suis content de vous connaître. Je suis artiste. Voilà. Je suis artiste. Déjà, c'est de se présenter. Et voilà, c'est de dire les choses. Voilà, par exemple, je parle d'un cas où tu vas aller dans le public, par exemple. D'accord. Mais déjà, c'est de chercher juste à susciter, en fait, l'intérêt des autres. Tu comprends? Ça va être ça. Ça va être d'autres cas de figure où là, par exemple, par contre, il y a quelqu'un qui va venir et on sait qu'on a besoin de lui vendre quelque chose. Mais plutôt que de lui vendre quelque chose, moi, aujourd'hui, je me considère pas comme étant un vendeur parce que je considère que ce que je propose finalement aux autres, ils ont le choix de le prendre ou pas. Tiens, je conseille.
D'accord.
C'est pour ça, bon, tu le sais, Tanguy, moi, je fais partie d'un BNI aussi.
Ouais.
Donc, la devise du BNI, c'est qui donne reçoit.
Ouais. D'accord. BNI, Business Network International.
Exactement.
Je pense que tapez sur Internet, vous allez tout de suite trouver de quoi on parle. Et c'est des clubs d'affaires, on peut dire.
C'est un club d'affaires. Exactement. C'est le plus gros club d'affaires. Ça vient des États-Unis. Et c'est très, très structurant, en tout cas, pour les personnes qui se lancent.
Exactement.
Ouais.
Donc, tu dis que toi, ton but, c'est d'abord de donner aux gens pour recevoir.
C'est exact.
Mais si t'es, je prends un exemple, t'es avocat. Voilà. Nous, on a une grosse, ou profession libérale. En tout cas, on a une grosse population d'avocats. T'es avocat. Qu'est-ce que tu vas donner pour recevoir?
Alors, déjà, quand on est avocat, c'est vrai que c'est conventionné.
Ouais.
Donc, un avocat, il peut pas communiquer n'importe comment.
Totalement.
Par contre, un avocat, ce qu'il peut faire, c'est que, peut très bien, il y a plein de cas de figure. En plus, il y a différentes spécialisées dans les avocats. Les avocats en droit pénal, en droit successoral, bref, il y a plein d'avocats. bah, c'est déjà de se dire que je vais donner du conseil. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure. En fait, c'est un truc qui est tout bête.
Mmh.
Un avocat, il a obligatoirement, disons quotidiennement, des clients ou bien il a des cas de figure.
Mmh.
Mais ces cas de figure-là, il peut en fait en parler à travers un podcast, à travers que ce soit vidéo ou audio, à travers des écrits. Il peut très bien avoir une newsletter, par exemple, sur laquelle il dit, ben voilà, j'ai été confronté à tel cas de figure pour tel client, voilà la solution que j'ai donnée. Il n'a rien vendu. Il a dit sa méthode. Il a donné, en fait, il dit, voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là, bah, pensez aussi à passer par ça parce que ce client, j'ai réussi à régler sa problématique en faisant ça pour lui. Et donc, il a expliqué, j'ai réussi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une phrase simple. J'ai une bêtise dans le cadre, j'ai comment régler une succession sans y laisser trop de ronds, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a la phrase d'accroche. Toutes les personnes qui sont dans un cas de succession et qui se disent, putain, mais je vais y laisser trop de ronds. Eh ben, déjà, ça m'intéresse. Et donc, ben, dans le cas de figure là, j'ai eu ça, ça, ça. Il y a eu un couple qui est venu. Il y a eu une famille qui est venue. Elle a besoin de régler ça. Et puis, elle a fait, j'en sais rien, une SCI. Elle a fait peu importe le montage. Et du coup, voilà, ben, j'ai aidé à faire la SCI. Si ça, ça, j'ai fait les procédures, j'ai envoyé les courriers. Et donc, elle va dire, en fait, tout ce qu'elle a fait. Elle a vendu quelque chose jusque là?
Non. Enfin.
Non.
Elle a pas un produit précis qu'elle a vendu. Oui, effectivement.
Elle a vendu, elle a donné du conseil.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'on attend d'un avocat?
Qui soit expert, qui connaisse son sujet.
Conseil. Voilà. Donc, ça s'applique dans tout. On peut donner, quel que soit son métier, on peut donner. On est un dessinateur. D'accord? Un dessinateur, il a des feuilles qu'il utilise avec différents grains. Il y a différents stylos. Il y a différents types de stylos. Et en fonction du stylo que tu vas utiliser, tu vas avoir une certaine épaisseur ou pas. Bah, quelqu'un qui aime le faire du dessin, ça va l'intéresser. De savoir, eh ben oui, ben tu sais, si tu veux faire un dessin fin, moi je vois ma fille, elle adore dessiner. Tu vois, elle aime dessiner les mangas, les trucs comme ça et tout. Et je vois, elles ont des stylos spéciaux, là, je sais même pas quoi, comment ça s'appelle.
D'accord.
Ben tu vois, mais elle, ma fille qui me dit, ah ouais, on lui a offert ça pour Noël et tout. Elle m'a dit, ouais, mais tu vois, papa, avec ça, je peux faire tel dessin, ça, ce feutre-là, non, faut pas utiliser ça pour ça, pour faire les sourcils, des trucs. Ben tu imagines, toi, t'es un dessinateur, tu sais exactement quel stylo qu'il faut faire. Eh ben, c'est la personne qui est passionnée de dessin, elle va se dire, elle va te suivre, machin. Et puis, à un moment, tu dis, je vous donne des cours, justement, pour ça, si vous voulez vous perfectionner. Est-ce que tu vends quelque chose? Ben, la personne va venir te voir parce qu'elle va se dire, tu m'as donné tellement de valeur tout le temps, depuis longtemps, qu'à un moment, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'avoir le privilège de travailler avec toi.
Totalement.
Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un travaille avec moi, je considère qu'il a un privilège. Tu comprends?
Oui, je vois très bien. Et c'est intéressant parce que, en fait, là, tu abordes la question de la distinction entre l'inbound marketing et l'outbound. C'est-à-dire que tu as un cas où tu crées du contenu et en créant du contenu, tu vas mettre en valeur ton expertise. Mettant en valeur ton expertise, tu vas attirer directement vers toi les clients. Qu'après, ils seront déjà prêts, tu auras juste à les croquer, quoi. Et après, tu as, bon, je dis ça de manière un peu dure.
C'est un commercial, hein. T'aimes pas les commerciaux.
Non, mais pour ça. Mais après, parce que l'alternative, c'est ceux qui font du cold calling, quoi. Ils prennent leur téléphone. Oui, bonjour, monsieur Geoffroy. J'ai besoin de tel, enfin, vous avez besoin de changer vos fenêtres. Et ça tombe bien. Nous avons une promo. Est-ce que ça vous intéresse? Alors qu'en réalité, t'as pas besoin de changer tes fenêtres, mais ils espèrent tomber sur un pigeon. Enfin, ils espèrent tomber sur quelqu'un qui a besoin. Et souvent, quand on parle de commercial, ben, les gens se voient plus cet aspect-là, là. Et quand t'es un peu introverti, que t'es un peu timide, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur ce mode-là. Parce que tu sais que tu vas devoir toucher 100 personnes, appeler 100 personnes et faire des appels difficiles avant qu'il y en ait un ou deux qui se transforment véritablement, non?
Oui.
Donc c'est difficile.
Oui.
Et l'autre, l'alternative, qui est celle que tu proposes, mais est-ce que toi, déjà, tu formes sur les deux? Ou bien est-ce que tu formes que sur
nous, on forme effectivement sur les deux cas de figure. Pourquoi? Parce que si tu veux, il faut se dire une chose, c'est que quand, déjà, moi, je trouve ça très respectable, ceux qui font du cold calling, parce que faut savoir que c'est dur.
Ah oui,
c'est des métiers qui sont compliqués, durs. Mais si tu veux, aujourd'hui, pourquoi la plupart des grosses boîtes, en tout cas, et regarde toutes les startups qui se montent. En général, quand il y a des startups qui se montent, la plupart du temps, les fonds, c'est pour structurer une force commerciale.
Ouais.
Pourquoi? Parce que je te dis, le meilleur produit du monde, il n'existe pas, en fait. Il se construit. À l'infini, il se construit.
D'accord.
À l'infini. Par contre, il y a une chose qui est claire, une règle fondamentale dans tout business, il faut du cash.
Ouais.
Et pour faire du cash, c'est que le commercial qui fait ça.
Okay.
Et donc, le commercial, il faut qu'il appelle. Après, ça dépend des produits. C'est pas tous les produits où tu vas avoir une force de vente qui va appeler. Mais dans le cas de figure, si on reste vraiment sur ceux qui font du call-call, d'accord? Oui, on apprend aussi à le faire parce que ça a son importance d'apprendre à le faire, de savoir comment bien le faire. Mais aujourd'hui, faire un bon call-call, c'est une recherche, c'est une chasse. Moi, j'appelle pas ça de faire comme on le faisait un petit peu avant, où tu prends le bottin et puis bam, 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 bam,
comme dans le Loup de Wall Street. Ouais. On parlait de ça tout à l'heure.
Mais ça c'était à l'ancienne.
Ouais.
À l'ancienne, les gens, ils étaient pas encore informés. Il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a eu trop d'arnaques.
Ouais.
Il y a eu trop d'arnaques. C'est plus possible de le faire comme ça.
D'accord.
Tu vois. Après, tout va dépendre aussi, parce que des fois, ça va être, regarde, aujourd'hui, limite, CFR, tout ça, tous les copains, Bouygues et tout, maintenant, c'est limite, ils s'embêtent même plus. Maintenant, en gros, ils te font des appels automatisés, et puis ça sonne, et puis bonjour, votre père, c'est insupportable.
Oui, c'est vrai.
C'est complètement impersonnel, c'est pas possible, quoi.
Tu vois. Est-ce que ça fonctionne, ça, vraiment?
Sincèrement, j'en sais rien.
D'accord.
Moi, je pense encore que ça fonctionne pas sur moi.
Ouais, c'est ça, on n'est pas les clients.
Ça fonctionne pas sur moi.
Ils doivent avoir une cible qu'ils arrivent à toucher, mais.
Il y a des gens, peut-être, qui décrochent. Il y a des gens qui répondent. Mais pour moi, aujourd'hui, quand je forme, en tout cas, à faire ce que j'appelle de la chasse, je forme à faire de la chasse, organisée, structurée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux chasses. Est-ce que c'est toujours pareil? C'est quelle est ta cible? Est-ce que c'est du particulier? Est-ce que c'est du professionnel? Parce que c'est pas pareil. Tu vois, si aujourd'hui quelqu'un vient me voir et me dit, moi, ma cible, c'est du professionnel, là, à ce moment-là, il y a une méthode. Donc, ça veut dire que quelle est ta cible professionnelle? Quel est ce qu'on appelle le buyer persona?
Ouais.
D'accord? Donc, voilà, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Elle a quel âge? C'est quoi sa catégorie socio-professionnelle? Qu'est-ce qu'elle lit? C'est quoi les sites sur lesquels elle se trouve? Quels sont les médias qu'elle va regarder? Etc., etc. Est-ce qu'elle a des enfants, pas d'enfants, etc., etc., etc. Donc, il y a tout ça déjà à réfléchir. Et que ce soit de toute façon pour du particulier ou que ce soit pour du public, et public encore pire, parce que le particulier, tu peux l'avoir à l'émotion.
Ouais.
Donc, le Loup de Wall Street, c'est l'exemple type. À l'émotion, tu peux te dire, bon, t'as quelques hacks, tu vois, t'as quelques techniques, et tu peux faire en sorte que la personne, à un moment, elle se dise, OK, pourquoi pas? Et qu'elle va avoir un achat, ce qu'on appelle impulsif. Dans le professionnel, c'est pas possible. Le professionnel, c'est fini, tu peux plus avoir l'impulsivité, ça fonctionne.
C'est pas des humains derrière. À partir du moment où c'est des humains, il y a toujours de l'impulsivité, non?
C'est pas ça, c'est que souvent, t'as les centres de décision, ils sont à plusieurs.
Ah, sur des ventes complexes. C'est ça que tu veux dire?
Sur des ventes complexes.
Ok, d'accord.
Tu vois, donc c'est pas du tout la même chose.
Ouais.
Tu vois? Donc quelqu'un qui va venir et qui va dire, oui, effectivement, moi, je vais vendre à un autre professionnel. Là, t'es obligé de savoir, ce professionnel, c'est quoi sa société? Et maintenant, effectivement, tu peux utiliser, des outils comme ChatGPT, Faro, machin, enfin, plein d'outils qui existent, sur lesquels tu peux déjà scraper le maximum d'informations sur l'entreprise, pour savoir déjà aujourd'hui, comment l'entreprise, c'est quoi son chiffre d'affaires, c'est quoi ce truc, est-ce que son site, il est bien référencé, de quoi le site parle, et que quand t'arrives, tu peux essayer de détecter déjà les peines qu'il y a de la société pour faire ce qu'on appelle un script avec un message avant que tu vas envoyer un mail au bon décideur. Est-ce que c'est un DSI, c'est-à-dire le directeur des systèmes d'information?
Ouais.
Est-ce que c'est qui est le décideur dans cette boîte?
C'est complexe, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le travail, même quand tu es au téléphone avec la personne ou quand tu as eu le rendez-vous, en fait, c'est le résultat d'un long travail en préalable.
Bon, en tout cas, sur le B2B, oui.
Ouais.
Sur le B2C, c'est un peu différent.
D'accord.
Tu vois, mais perso, moi, je ne forme pas en toute franchise sur de la vente non éthique. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit qu'il va vendre, je sais pas, un frigo à un Eskimo,
ça
m'intéresse pas.
Ouais.
Tu comprends?
Il faut du cash. Si les Eskimos sont susceptibles d'acheter.
Ouais, non, mais en même temps, alors, ok, mais si tu veux, j'ai ma limite à la rigueur, si le frigo, il est bien et tout, il n'y a pas de souci. Imagine, on va me demander d'aider à vendre quelqu'un quelque chose qui est illicite ou qui va faire du mal aux autres.
Ouais.
Je ne le ferai pas.
Tu vends pas de sucre, par exemple.
Écoute, j'ai pas besoin de le faire. Les gens, ils ont pas besoin de moi pour acheter du sucre.
Non, parce que toujours, je me dis à quel moment on place le licite, l'illicite, c'est toujours des sujets compliqués. Mais, un truc qui m'a intéressé, t'as parlé du buyer persona. Et t'as deux choses qui sont beaucoup revenues. T'as parlé du buyer persona d'une part et t'as parlé du pain. Donc, le pain, c'est quel est le point de douleur de ton client ou de ton prospect. Et une fois que t'as réussi à répondre à ce point de douleur, là, il va passer à la caisse, quoi. Donc, première question, comment est-ce que tu te définis? Est-ce que tu as des outils pour définir le buyer persona, donc ce, ton client idéal? Et deuxième, c'est quel est un peu, alors je vais pas te demander ton script idéal, mais si tu veux le communiquer, ce serait bien. Mais comment est-ce que tu fais pour aller identifier le pain chez ton client?
Ok. Alors l'outil idéal, en fait, il y en a pas. Tu peux les trouver sur Internet. Hein.
Ok.
Franchement, tu tapes buyer persona sur Internet, puis t'as des fiches types qui apparaissent, quoi.
Ok.
Donc donner l'homme, le homme sexe, voilà, type de. Est-ce qu'ils sont plus sur le téléphone? Est-ce qu'ils sont plus sur le comment dire sur Internet? Peu importe, ça va te dire voilà pas mal de renseignements et donc tu le construis.
D'accord.
Le meilleur moyen de construire au départ son buyer persona, c'est si par exemple on est déjà en activité et qu'on a déjà des clients, c'est de faire des enquêtes finalement de satisfaction ou des enquêtes de comment dire de clients.
Ouais, qui permet de comprendre quelle est la quels sont les points communs entre tous tes clients.
Exactement.
Quoi.
Donc okay. Ça c'est déjà quelque chose qui peut être fait simplement. Donc effectivement bon bah voilà, après soit on passe des appels à nos bons clients, soit effectivement on envoie une enquête massive, mais bon voilà, après c'est toute une dynamique à mettre en place. Si par contre on n'a pas ça, par contre qu'on pense savoir effectivement qui est son buyer persona, là à ce moment-là, ben faut interroger aussi ben des amis, des amis qui peuvent rentrer dans la cible par exemple. Ou appeler des entreprises, si c'est des entreprises qui nous intéressent, on peut essayer d'appeler, avoir un contact en disant, bon, on veut mener une enquête un peu publique, etc., trouver des choses pour le faire. Mais c'est crucial de bien savoir finalement qui est sa cible, qui est l'acheteur quand on a quelque chose à proposer.
D'accord.
D'accord. Okay. Ça, c'est crucial.
Ensuite, sur le pain, comment identifier le pain point chez son prospect?
Alors, pareil, il y a deux écoles. Soit t'as l'école où t'as fait des recherches avant, ça veut dire que tu sais exactement, par exemple, si c'était sur une vente un petit peu complexe avec un particulier et que c'est une bêtise, mais tu veux vendre, imaginons un particulier une assurance. Allez, en prenant le cas d'une
c'est
assurance.
Là, je déteste encore plus. Bon, franchement, j'ai beaucoup de préjugés. Mais...
bon,
mais non, mais vas-y, ça ne dérange pas.
Mais on prend le cas d'une assurance, par exemple. Imaginons, moi, je veux vendre des assurances à des gens. Voilà. Ben, qu'est-ce que je fais, par exemple? Eh ben, je vais essayer de voir déjà sur une cible, d'accord, donnée. Et puis soit je vais acheter en fait de la base de données parce que t'as plein de ce qu'on appelle les sites, tu sais, je vais dire les sites putaclic, c'est un peu comme ça qu'on les appelle, où eux ils collectent un maximum de données, t'achètes de la donnée, des
plus
leads
ou
plus ou moins qualifiés, qui vaut de plus en plus rien du tout en gros, et du coup là tu sais en fait vraiment s'ils ont déjà des assurances ou pas.
Okay.
Est-ce que t'as pu déjà voir finalement l'ancien contrat qu'ils avaient, faire un comparatif, par exemple, et dire, tu sais exactement déjà sur l'assurance qu'ils ont, quels sont les là où c'est plus cher et là où tu peux effectivement leur proposer moins cher. Donc, tu as travaillé un petit peu ça.
D'accord.
OK. Mais imaginons, par exemple, que là, par exemple, un client où là, tu n'as pas du tout de renseignements.
D'accord.
D'accord. Et là, tu vas découvrir un peu ce client-là. Ce que moi, je ne conseille pas, parce que je veux dire, quelle que soit sa cible, il faut déjà savoir, en fait, c'est quoi l'angle d'attaque, quoi. Sinon, tu n'es pas commercial.
Bien sûr.
Si tu appelles sans avoir étudié un petit peu quelle est la problématique de ta clientèle ou de ton segment, il y a un problème.
D'accord.
Maintenant, imaginons que tu découvres quelqu'un, mais que là, tu vas le voir. Ben là, effectivement, il y a des questions à poser. Déjà, c'est pareil, c'est d'essayer de savoir ben, qu'est-ce qui a fait que la personne elle a fait ce projet. C'est de savoir quels sont les enjeux de cette personne, quelles sont les problématiques, quelle est la vision, quelles sont...
Par exemple, si c'était... Quelles questions tu poses concrètement, quoi, tu vois genre, si tu me retrouves face à moi, imaginons que je te dis, tu veux vendre des assurances et tu vas me voir et tu me dis, quelles questions tu vas me poser concrètement?
Pour une assurance, c'est pas pour toi?
Ouais.
Bah attends, parce que moi, je suis pas vendeur d'assurance. Non, plus.
Non mais je te dis pas, imaginons. Mais non. Formation en vente. Parce que moi, pour le coup, je peux être ton persona, en vérité.
D'accord.
Tu vois?
D'accord.
Quelle question tu me poserais pour savoir si moi, enfin, pour déterminer mon pain pour aller passer à l'acte d'achat?
Alors, toi, dans ton cas de figure, pour moi, t'es déjà, je me mets en cas de valeur. Pour moi, déjà, aujourd'hui, t'es déjà dans un projet.
Ouais.
Donc, t'es plus dans le mindset, tout ça, on n'est plus dans ce problème.
Voilà, on est déjà dans
Toi, aujourd'hui, tes problématiques, tu vois, vont être plus pour moi économiques ou organisationnelles. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as besoin de passer un cap. C'est-à-dire que soit tu vas être dans un process de financement, t'as besoin de financeurs pour financer ton projet. D'accord? Soit tu vas être, effectivement, t'auras besoin de ressources humaines pour pouvoir t'accompagner à faire ton projet. Et là, effectivement, déjà, je vais être dans ce câblage-là.
D'accord.
Et je vais dire, Tanguy, écoute, aujourd'hui, t'as besoin de développer effectivement Black Network. bah, qu'est-ce qui te manque pour développer Black Network? Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui chez Black Network?
Si je te dis, je sais pas. En fait, je me rends compte que, voilà, j'ai l'impression que j'atteins un plafond de verre. Mais, j'arrive pas à dépasser ce cap-là des 100K, par exemple.
Mais je te propose un diagnostic.
D'accord.
Je te propose un diagnostic. Je te dis, bah, écoute, je peux te poser les questions. Alors là, on va pas faire ce jeu-là, là, tout ça tout de suite. On pourrait, hein, si tu veux faire en
on
direct.
Peut,
hein.
On peut, moi, j'ai pas de problème.
Bah, écoute, bah, avec plaisir.
Non, c'est pour que les gens comprennent un peu, parce que, tu sais, tout ça, là, quand on en parle, ça paraît très abstrait, tu vois.
Ouais.
Et les gens se disent, oui, ok, bon, mais ça m'a pas, je vois pas vraiment concrètement qu'est-ce qui va m'apporter, tu vois.
D'accord.
Alors que là, si on voit concrètement quelles questions tu vas me poser, les gens vont se dire, ah ouais, non, moi, je pose pas du tout ce type de questions, ou, tu vois.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va tomber vers, comment dire, quand on a besoin de faire en tout cas une vente, quand on a besoin de poser des questions, comme je te dis, ça va vraiment dépendre de quel profil. Par exemple, je vais prendre deux cas concrets sur la DCA. On prend un peu dans le dur.
Vas-y.
Aujourd'hui, moi, sur la DCA, j'ai deux offres. J'ai une offre qui s'apparente plus donc sur le coaching avec une cible qui est plutôt des salariés qui ont besoin de changer de vie.
Ouais.
Le salarié, d'accord, à deux sources de frustration. Il n'est pas maître de son temps. D'accord? Et il a des rêves qu'il aujourd'hui, il a sûrement besoin, en fait, de réaliser, mais il a peur de les réaliser. Donc ça, aujourd'hui, quand moi, j'ai besoin de vendre à une personne comme ça, je sais que moi, mon persona, c'est principe, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde.
Bien sûr.
Et un produit peut pas servir à tout le monde.
Et ça, c'est un risque. Enfin, c'est un problème que je trouve qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à choisir. Ils disent toujours, je veux très bien vendre à la femme active, à la femme qui est à la maison, au mec qui fait 100K, au mec qui fait 2 millions, et ils n'arrivent pas à choisir.
Tu peux pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un produit. Il faut avoir un produit. Moi, le produit sur la DCA, c'est un produit effectivement pour des salariés qui veulent changer de vie. Donc, ils ont pas encore, savent pas encore clairement ce qu'ils veulent. Par contre, ils savent qu'ils veulent passer à l'action et ils ont besoin d'être motivés. Et donc, c'est là pour ça que je te parle, il y a tout le volet psychologique d'estime, de confiance en soi, de tout ça qui a à travailler.
D'accord.
Donc là, c'est un produit pas cher. On est entre 50 et 100 euros par mois. Et donc, c'est accessible. Et là, ça permet d'avoir du coaching hebdomadaire toutes les semaines.
D'accord.
Travailler sur la motivation, sur tout ce qui permet de passer à l'action. Et de se structurer au fur et à mesure avec des experts qui ont déjà fait leurs preuves.
Ok.
D'accord. Deuxième produit, là, c'est effectivement pour l'entrepreneur. L'infopreneur, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, où là, effectivement, on va être plus le coach, le consultant, le praticien, là, qui là, effectivement, a déjà lancé son business, mais plafonne. Il plafonne pourquoi? Parce que justement, il sait pas vendre.
Ouais.
Et là, effectivement, là, j'ai un deuxième produit. Et donc là, c'est effectivement un autre module. Là, c'est une formation. Donc, c'est dans la durée limitée.
Ouais.
On est sur 6 mois.
D'accord.
Et sur 6 mois, en plus, effectivement, des lives que la personne peut assister, elle va avoir effectivement un accompagnement individualisé. D'accord. Avec des petits groupes d'entrepreneurs aussi. Donc, de partage, d'échange, un peu comme tu fais sur Black Network avec le Slack, où les gens vont pouvoir échanger entre eux.
Tu fais la pub de Black Network.
Mais moi, tu sais comment je suis.
Je te t'inquiète.
Moi, il n'y a pas de souci, tu le sais. C'est nous-mêmes, comme on dit chez moi. C'est nous-mêmes.
C'est exactement ça.
Et du coup, là, effectivement, il va y avoir de l'accompagnement plus individualisé avec des plus petits groupes.
D'accord.
Parce que là, on parle avec des entrepreneurs et les cas sont un petit peu différents et chacun a des problématiques.
D'accord.
Donc là, effectivement, on va y consacrer plus de temps pour pouvoir voir quel est le cœur du problème. Est-ce que c'est un problème qui vient de la manière dont la personne, déjà, quel est son produit? Est-ce que ton produit, il est bon? Est-ce que ton produit, il est bien positionné? Est-ce que t'as trouvé ta cible? Est-ce que ton message, il est clair? Donc, il y a un vrai travail de diagnostic pour savoir déjà est-ce que tu es bien positionné. Parce que ça prend du temps, quoi. Moi, je te dis, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne des boîtes. Moi, ça me paraît clair, en fait, quand je vais voir des boîtes, je vois tout de suite ce qui pose problème. Même pour moi, dans le positionnement de mes entreprises, de mon groupement, de mon holding, ça commence maintenant à être clair. Comment ma cible, pour ma société de conseil 360, c'est quelle cible et quel est le cœur de cible? Est-ce que c'est plus de 10 millions? Tu vois, quand je te disais, avec ma boîte de conseil, mon cœur de cible, c'est plus de 5 millions. En dessous, c'est pas intéressant.
D'accord.
Tu vois, notre structure, c'est petit commerçant, mais commerçant qui fait du retail. Coaching, là, c'est segment salarié qui a besoin de changer de vie. Là, tu vois, donc, bien séparer les choses et essayer de se simplifier pour que ce soit clair dans l'explication.
D'accord.
Tu vois, et donc ça, il faut clarifier. Et moi, ce que je fais aujourd'hui pour un chef d'entreprise, c'est ne serait-ce que déjà de faire en sorte que ce soit clair pour lui, son offre, mmh. et que est-ce qu'il est sûr que c'est clair aussi pour les autres.
Mmh. Ok. Et si tu devais dire, quels sont les problèmes que tu vois régulièrement chez les entrepreneurs en termes de vente? Quelles sont les erreurs que tu vois trop souvent et tu dis, eh, moi, je veux plus voir ça, là?
Parle trop.
C'est-à-dire?
Parle trop.
Mmh.
Parle trop, ils parlent trop de d'eux, ils parlent trop de leurs produits, et ils écoutent pas l'autre.
D'accord.
Ils écoutent pas l'autre. Quand tu vois, pourquoi Apple, quand ils te vendent quelque chose, Apple, ils te donnent un prix sur quelque chose,
mmh.
ils te vendent rien.
Mmh.
Ils te projettent. Ils te laissent ton imaginaire parler, ils te donnent une perspective.
Mmh.
Tu vois, les Américains, c'est les rois du market, c'est eux qui l'ont inventé. Bah, tu vois, surtout quand t'es dans le haut de gamme, tu vends rien, en fait, tu suggères.
Ouais.
Tu vois, moi, aujourd'hui, quand j'ai mes clients, je leur vends rien, je les conseille. Et les gens m'appellent parce que je les écoute.
Mmh.
Et en général, quand je suis dans un entretien, que je vois un client, je pose que des questions, je pose des questions tout le temps. Et je dis, ah, moi, je vends rien.
Mmh.
Je pose juste des questions et j'abonde sur ce qu'elle me dit. Et puis, une fois que la personne m'a dit, je dis, OK, je récapitule. Donc, si je comprends bien, vous m'avez dit ça. OK, donc ça, aujourd'hui, vous faites tant de chiffre d'affaires. Mais d'ailleurs, quand quelqu'un veut que je lui donne du conseil, je lui demande son chiffre d'affaires. Si la personne ne veut pas me donner son chiffre d'affaires et si la personne, elle veut pas me dire quel budget qu'elle a prévu pour régler son problème, mmh. c'est qu'elle est pas mûre.
Mmh. Ouais, en fait, les questions t'aident à définir, un, le positionnement du client, savoir en fait s'il est tiède, chaud ou froid, et ensuite déterminer aussi le pain que tu disais tout à l'heure, quoi.
La peine, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes, tu vois. Donc, tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas aider. C'est pour ça qu'en fait, au départ, je ne vends rien, parce qu'à la fin, il faut que je sache si je peux aider ou pas.
Mmh.
Après, moi, je te parle de... Moi, aujourd'hui, je suis consultant. Donc, je suis consultant. Donc, aujourd'hui, je vends du conseil.
Mmh.
Je vends du coaching, je vends de la formation. Donc, tu vois, moi, j'ai ce positionnement-là. Si j'étais dans un monoproduit où j'avais un truc à vendre, machin, peut-être que j'aurais un autre discours.
Mmh.
Et que par tous les moyens, j'aurais cherché à vendre.
Mmh.
Mais en réalité, non, parce que je sais que je pourrais pas satisfaire tout le monde.
Mmh.
Et moi, ce que je veux, c'est travailler dans le long terme avec mes clients. Donc, si à un moment, je peux pas aider, au pire, j'y écoute. Moi, je sais pas faire. Par contre, j'ai des personnes.
Ouais, tu peux orienter.
Qui pourront t'aider sur ça.
Mais au-delà de ça même, ce que moi j'entends, c'est la nécessité de pouvoir établir un diagnostic.
Ouais.
Quand tu vas chez le médecin, t'arrives, il va te poser des questions. Il répond pas tout de suite, il dit pas tout de suite, voilà, vous avez telle pathologie. Il va te poser des questions parce que c'est les éléments que tu vas lui apporter qui vont lui permettre de se faire une idée précise de ton état, de la pathologie, du niveau de la pathologie, et qui va exclure des hypothèses ou en valider d'autres, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que écouter, poser des questions, écouter, c'est la première chose. Et c'est vrai que même moi, en networking, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, quand tu vas dans un événement, tu vas faire du réseautage, bah, parle pas, en vrai, tu vois. Tu poses des questions. Comme ça, tu vas savoir quels sont les besoins de ta cible. Et déjà, tu vas savoir si la personne est dans ta cible, premièrement. Et ensuite, tu vas savoir quels sont ses besoins et tu vas lui apporter juste la réponse à ses besoins et pas parler de choses qui ne l'intéressent pas au final, quoi. C'est ça. Ça, donc, c'est la première erreur. Les gens parlent trop. Qu'est-ce que tu vois d'autres erreurs?
Bah, les gens parlent trop. Après, ils posent pas les bonnes questions.
Ouais.
Après, ils suscitent pas non plus l'intérêt.
Mm-hmm.
En fait, il y a une part de mystère. T'imagines, c'est comme un plan de drague, en fait. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a deux choses qu'il faut se dire quand on vend, on va dire, parce que c'est pas vendre. Moi, quand aujourd'hui, je vais dire que je vends, c'est que aujourd'hui, j'offre l'opportunité à l'autre qu'on bosse ensemble. C'est plutôt ça. C'est un partenariat.
Ça, c'est
en fait
une question de mindset, ça.
C'est parce un que partenariat.
Ça, là, ce que tu viens de dire.
Voilà.
Le truc que tu viens de dire, là, tout juste là.
C'est un partenariat. Ça, là,
c'est une question de mindset. Parce que il y a plein de gens. Et je peux dire que moi-même, sur certains services, ça m'arrive. Ils mendient un peu, tu vois. Ils sont en train de demander, est-ce que tu peux m'accorder l'opportunité de travailler avec moi? Alors que toi, ce que tu es en train de dire, c'est un autre positionnement. Et c'est là où je comprends l'intérêt du coaching. C'est de dire, moi, je suis quelqu'un, j'ai un bon produit et je t'autorise, je te permets de venir bosser
t'as
avec moi.
T'as la chance.
T'as la chance, exactement.
T'as la chance qu'on bosse ensemble. T'as la chance que je sois tombé sur toi, que je te propose ça. C'est une opportunité qui est là pour toi.
Mmh.
Tu vois? C'est ça, en fait. Et c'est ça la différence, tu vois, dans le mindset.
Mmh.
Moi, aujourd'hui, je peux être comme ça parce que, si tu veux, t'en as qui le font et qui sont complètement pas éthiques et qui vont vendre de la grosse merde et ça leur pose pas de problème,
ouais.
Tu vois?
Mmh.
Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est mon image de marque, c'est comme ça que je suis. Et comme je te dis, moi, le capital confiance, c'est mon capital qui est le plus important. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir, et pourquoi on me recommande? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai de la recommandation. Et donc, ça me permet de travailler. Eh ben, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont confiance et ils savent que si jamais à un moment, je peux pas régler le problème. Moi, tu sais, moi, c'est très simple, hein. Moi, tous mes clients, à un moment ou à un autre, ils vont m'appeler. C'est-à-dire que quand c'est les renouvellements de contrat, quand c'est machin, même s'ils vont avoir un chef de projet qui va être avec, qui va le suivre, quand ils ont besoin de négocier, quand ils ont besoin de parler et tout, ils savent que moi, ils m'appellent. Que ce soit samedi, dimanche, n'importe quoi. Si mon téléphone, il est éteint, c'est parce que je dors. Mais sinon, les gens, ils savent que je suis là pour eux.
T'es disponible.
Je suis dispo. Tu comprends? Donc, moi, ça, c'est moi. Maintenant, dans le commun du mortel, tu vas avoir des personnes, si tu veux, dans la vente, où aujourd'hui, il faut absolument se dire, moi, je propose effectivement un service, et ce service-là, eh ben, c'est le meilleur. J'ai confiance en moi. En fait, il y a trois choses fondamentales si je dois donner vraiment le gros hack.
Ouais. D'accord? C'est ça qu'on attendait depuis tout à l'heure.
C'est pas un point, mais si je le dis tout de suite, après, c'est fini.
Déjà, ils vont plus.
Là, c'est fini. Non, mais il y a trois choses fondamentales. Après, c'est pas magique.
Ouais.
Ça, on l'avait vu dans, je sais pas si vous connaissez, sur, bah, justement, le Wall Street, c'est Russell Brunson. Alors, c'est pas Russell Brunson, c'est, comment il s'appelle, bref, ça me reviendra.
DiCaprio, là?
Non, ouais, c'est,
j'ai oublié son nom.
Jordan Belfort.
Ouais.
Jordan Belfort. Et en fait, dans son livre, qui est Vendre, il s'appelle Vendre, en fait, il explique, en fait, qu'il y a vraiment trois clés. Bon, il y a la straight line, où il te dit, voilà, son script et tout. Donc ça, on pourra vraiment peut-être creuser. Mais en tout cas, il y a vraiment trois choses fondamentales. C'est, d'une part, avoir confiance en soi. Donc, on en revient toujours
on
là.
On revient à ça.
Avoir confiance en son produit.
Ouais.
Et avoir confiance en son entreprise.
OK.
Parce que si t'as pas les trois qui sont réunis, en fait, ça peut pas marcher.
Alors, la confiance en soi, bon, on en a beaucoup parlé, je comprends très bien. Confiance en son produit, je vois. C'est-à-dire que si tu sais que ton produit règle les problèmes, ben, forcément, tu vas mieux travailler. Confiance en son entreprise, c'est quoi? C'est la capacité de l'équipe à travailler, à délivrer le service, c'est quoi?
Alors, la confiance en son entreprise, c'est justement, comme tu dis, c'est comment on délivre. C'est comment on délivre, c'est les process qu'on va mettre en place. C'est aussi l'image de l'entreprise.
Ok.
C'est quelle est l'image de l'entreprise.
Ouais.
Et c'est ça, le problème, c'est que tu peux être le meilleur vendeur du monde. Si jamais tu as une entreprise aujourd'hui que tu n'aimes pas, par exemple, déjà travailler dedans, en fait, ça va se transpirer. T'as des gens aujourd'hui qui critiquent, ils sont dans une entreprise et ils vont critiquer l'entreprise, quoi. Et du coup, ils seront pas performants parce qu'en fait, ils aiment pas cette entreprise.
Ouais.
C'est pour ça qu'on revient toujours sur le modèle un petit peu américain. Pourquoi aujourd'hui on parle de management? Pourquoi aujourd'hui ils mettent bien les employés,
les salariés?
Pourquoi justement on parle de côté corporate et autres? Et les team building et toutes ces choses-là. C'est parce qu'en fait, l'entreprise, elle se dit, à défaut de pouvoir donner peut-être le meilleur salaire du monde à mes employés, par contre, je veux qu'ils se sentent bien dans mon entreprise. D'une part. Donc, quand si mes employés se sentent bien, eh ben, à ce moment-là, ils vont pouvoir être exemplaires, ils vont pouvoir diffuser l'image de mon entreprise à travers le monde.
Ouais, je comprends.
Tu comprends?
Ouais.
Donc ça, c'est important pour les collaborateurs et c'est aussi important pour les clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de normes RSE, on parle de plus en plus d'RSE, on parle de plus en plus d'empreintes carbone. Tout ça, c'est des sujets qui sont importants parce que dans l'inconscient collectif, tu vas à entreprise égale, prix égal, tout égal. Qu'est-ce qui fait que tu vas acheter plus chez une entreprise?
Ouais, non,
notre...
t'as raison. C'est les valeurs, c'est l'image, c'est des choses qui sont pas dans le produit direct. C'est pour ça que je comprends maintenant. Parce que
tu comprends?
Tu parles de confiance dans l'entreprise.
Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, quand j'ai des clients, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec des grosses boîtes. Ces grosses boîtes-là, aujourd'hui, elles sont sur des sujets, sur deux sujets fondamentaux. Parce que souvent, en fait, c'était pas le cas. Ils sont sur la fidélisation client. Et pour fidéliser des clients, ça veut dire que tu es aujourd'hui ce qu'on appelle Customer Relationship Management ou gestionnaire de relations clients. D'accord? Donc, tu en as plein avec le CRM.
Ouais.
Tu en as plein. On pourrait pas croire. Sur Paris, c'est juste la norme. Il y a plein de personnes qui disent, ouais, tout le monde a un CRM, soi-disant. Mais je peux te dire que tu as plein d'endroits et plein de boîtes qui en ont pas.
Ils n'y pensent pas, OK.
Bah, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu connaisses tes clients. Pourquoi ils sont venus chez toi? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Parce que la valeur perçue, elle est la même que la valeur donnée. Qui sont-ils? Parce que une fois que tu les connais bien, tes clients, et que tu arrives à segmenter, c'est qu'à un moment, tu peux individualiser aussi le service pour tes clients. Et plus tu vas individualiser les services pour tes clients, plus à ce moment-là, ces clients-là aussi vont être contents et vont te recommander. Fidélisation amène à la recommandation.
Mmh.
Tu comprends?
Ouais, mais après, c'est difficile. Alors, fidéliser et individualiser, c'est difficile quand t'es dans une grosse boîte, que tu mets des process. En fait, t'as tendance à traiter tout le monde de la même manière, non?
Ben oui, mais ça, c'est pas de ma faute.
C'est pas assez... Non, mais comment ouais, si tu devais conseiller quelqu'un, quel conseil tu donnes? Toi, parce que là, tu te dis, c'est un objectif. Mmh. Maintenant, comment est-ce que t'atteins cet objectif-là?
Ah, ça, tu peux atteindre cet objectif. Maintenant, en toute franchise, ça, c'est des outils.
OK.
Faut s'outiller.
OK.
Autant quand t'es au début, et même, faut s'outiller. En fait, de toute façon, les trois clés de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est effectivement, pourquoi aujourd'hui les plus grands chefs d'entreprise au monde, ils sont eux-mêmes coachés?
Mmh.
C'est qu'ils ont un équilibre. Effectivement, regarde, toi-même, t'es coaché.
Ouais. Je suis pas encore l'un des plus grands chefs d'entreprise, mais.
Non, mais je veux dire.
Inch'Allah, comme on dit.
Ils n'y travaillent, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je suis coaché. Mm-hmm. Toi, t'es coaché. T'as plein de gens aujourd'hui. Il y en a plein qui sont coachés.
Bien sûr. Bien
parce qu'ils ont besoin à un moment d'avoir un terrain de parole, d'échange, mm-hmm. de se livrer. On a nos problématiques personnelles. Bref.
Mm-hmm.
OK. Mais à un moment, t'as besoin d'outils. Parce mm-hmm. que tu peux pas aujourd'hui tout faire. Pourquoi on parle de l'IA, tout ça, et pourquoi machin l'IA, ça fera pas tout remplacer. Mm-hmm. Mais ça facilite la vie, notamment pour la consolidation des données. Mm-hmm. Par exemple, que tu as de tes clients. Quand t'es un Décathlon, t'es des grosses boîtes et tout, machin, où t'as des millions et des millions de clients. Bah, il faut bien qu'à un moment, t'aies un outil qui te permette de dire, voilà, ben, t'as tel client qui est là, il a acheté tel article. Et donc, cet article-là, si aujourd'hui, par exemple, il a acheté des baskets, il a acheté le pull, il a acheté, je sais pas, la raquette de tennis, mmh. ben, c'est quelqu'un qui, peut-être, qui fait du tennis.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer?
Mmh.
C'est ce qu'ils font Amazon. Eh ben, ils font une suggestion d'achat.
Ouais. Ils appellent ça comment? Marketing prédictif.
Marketing prédictif.
Ouais, ouais, ouais.
Mmh, eh ben, pourquoi t'en as qui le font et pourquoi nous, on pourrait pas le faire? C'est juste des outils. Hein.
Ouais,
c'est
si la bonne data. T'as bien récolté la data.
T'as bien récolté la data.
Ouais.
La clé, c'est la data.
Mmh.
Et c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, on parle justement de, alors je sais plus le terme exact, c'est CDP ou CMP, en tout cas, qui est des centrales de consolidation des données,
mmh.
en fait, pour mmh. justement te permettre de d'identifier les segments, d'identifier les préférences d'achat, machin, de faire des sous-catégories, de segmenter au maximum.
D'accord.
Parce que tu vas pas faire de l'individuel pur.
Mm-hmm.
Par contre, tu vas dire, effectivement, t'as telle catégorie, effectivement, de clients qui sont venus parce que, effectivement, soit ils sont à proximité, soit c'est parce que ils trouvent que le caissier est sympa, soit peu importe.
Mm-hmm.
Et là, effectivement, tu peux envoyer les bons messages au bon moment.
D'accord.
Et tu peux personnaliser, en tout cas, après tes newsletters, par exemple. Ouais,
t'as des outils après.
T'as des adapter. Outils après de marketing automation.
Mmh.
Tu vois?
Et c'est ça, parce que tout à l'heure, t'as dit que t'es allé dans une boîte, je me souviens plus laquelle, qui est passée de 12 à 20 millions d'euros.
Mmh.
C'est ces outils-là que t'as mis en place pour?
Alors, à l'époque où j'y étais, non.
D'accord.
À l'époque où j'y étais, non, parce que si tu veux, c'était pas du tout le même cas de figure, parce que c'était des appels d'offres. Donc, mmh. si tu veux, là, c'est la succession des marchés, c'était le relationnel pur qui a pu permettre de faire ça.
OK.
Donc, le relationnel, moi, j'ai construit avant la technique, j'ai construit tout par le relationnel.
OK.
Le bouche à oreille.
Mais comment le relationnel te fait gagner 8 millions de CA? Pour moi, c'est plus, enfin, c'est énorme.
Bah, ce qu'on dit, que je te dis, c'est les appels d'offres. Les appels d'offres, si tu veux, quand tu réponds à un appel d'offres, sur certains gros marchés, par exemple, un marché sur la gestion de déchets ou bien sur des contrats industriels, ça peut vite être un demi-million, quoi.
Mais donc, le relationnel te permettait de connaître, d'avoir accès aux appels d'offres, d'avoir la bonne information. Et là, à ce moment-là, on est plus sur le networking, finalement, le réseau.
Du networking, de l'influence, du lobbying.
OK.
Tu vois? Et tout ça, c'est des choses aussi qui se travaillent.
Mmh.
C'est... Moi, si tu veux, quand je suis arrivé, c'était en Guyane, ça. Moi, j'ai fait l'effort, quand je connaissais personne, d'aller effectivement voir toutes les mairies,
mmh.
d'aller voir tous les notaires,
okay.
d'aller voir tous les... J'ai prospecté, je suis allé me faire connaître,
mmh.
je ne connaissais pas. J'arrivais sur un territoire, j'étais tout seul, je ne connaissais personne, je n'avais pas de famille.
Mmh.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture et je suis allé voir, j'ai commencé dans l'immobilier, ben, je suis allé voir tous ceux de mon secteur qui gravitait autour de mon mmh. secteur. Je prends un cas d'exemple pour... tu me parles des avocats.
Ouais.
Les prescripteurs. Qui sont les prescripteurs des avocats?
Ça dépend. Ça dépend de l'avocat et de son domaine. Dans l'immobilier, tu veux dire?
Ça dépend. Ça dépend. C'est pas obligé d'avoir la réponse, mais ce que je veux dire, c'est que...
Tu es en difficulté, là.
Non, mais c'est qu'il y a des vraies questions à se poser.
Mmh.
Là où ce que j'aime, c'est mettre la personne en difficulté, justement.
Ouais.
C'est mmh. de se dire, OK, tu dis, ouais, t'as pas de client. Mais en réalité, t'as fait le tour déjà de ton réseau proche?
Bonne question. Et c'est ça quand on dit toujours que tout le monde a du réseau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, j'ai pas de réseau, je connais personne. Et toi, ce que t'es en train de dire, c'est qu'en réalité, même si à ce moment-là, t'étais pas encore, tu venais d'arriver, mais t'as réussi à trouver les moyens d'activer un réseau qui te permet d'atteindre ton objectif.
Ah oui. Ah oui, mais à un moment, faut se bouger les fesses.
D'accord.
Faut aller voir les gens. Mmh. Bonjour. Mmh. Je m'appelle Terry. Je viens de me lancer, je viens d'arriver sur la région. Voilà, je travaille pour telle société. Mmh. Et puis voilà ce qu'on propose. Si vous avez des besoins, je suis à votre disposition. Mmh. Et puis tu le fais 10 fois, 30 fois. Et puis à un moment, t'arrives au bon moment, au bon endroit, et quelqu'un te rappelle parce qu'il dit bon, au fait, tu m'as appelé, t'es venu me voir. En fait, faut bien comprendre une chose, c'est que il faut avoir confiance à la puissance de l'humain. Mmh. On est des hommes, quoi, avec un grand H. Mmh. Donc, à un moment, il y a des liens qui se tissent, quoi.
Ouais.
Tu vois? Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout ça. Pour moi, je pense que plus il va y avoir de la technologie, plus l'humain va reprendre sa place, en fait. Parce que finalement, avec tout cet élan de techno et autres, mmh. finalement, les gens, ils s'enferment sur des réseaux, les machins. Je sais pas si t'as déjà rêvé de voir des gens qui sont super à l'aise. Tu les vois tous les jours sur les réseaux et tout. Et quand tu vas leur parler,
ouais.
ils savent jamais un mot
ouais,
à dire.
Ouais, 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 ouais.
Ils sont comme des huîtres, en fait, ces
gens-là. Comment ça se fait? Alors que je te vois tout le temps sur les réseaux.
Tu vois, t'as l'air tellement sympa sur les réseaux et tout.
Totalement.
Mes frères, en fait, tu les rencontres et tout. Ces gens-là, c'est des... Ils sont, en fait, tu sens que c'est qu'un masque, en fait.
Mmh. Mais toi, c'est pas le cas, parce qu'on parle beaucoup sur les réseaux. Là, on s'est rencontrés aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Enfin, non, au contraire, c'est la même chose qu'on voit, la même dynamisme qu'on voit sur LinkedIn, on la voit aussi dans la vraie vie, quoi.
Ouais, alors j'aimerais bien être plus actif sur LinkedIn, pareil, mmh. mais bon,
il faut travailler aussi,
tu vois. Donc, j'ai du boss, j'ai du taf, tu vois. Mais dès que je peux faire passer un message, donner un petit conseil par-ci, par-là, j'essaie de le faire.
Bien sûr.
Tu vois, mais l'humain, c'est la clé. Et en fait, faut pas négliger ça. C'est pour ça que faut sortir de, tu connais ça, sortir de sa zone de confort.
Totalement.
Ça, on le fait quel que soit son niveau personnel, financier et autre. À un moment, il faut pouvoir être toujours dans une phase d'amélioration. Mmh. Tu vois, continue et sortir de sa zone, quoi.
Ça passe par sortir de sa zone de confort.
Et donc, ça passe par effectivement. Si t'es en phase où t'as besoin d'avoir de nouveaux clients, c'est faire le tour de ta. Déjà, est-ce que ta famille est au courant de ce que tu fais? Est-ce que tu les as appelés pour leur dire? Bah ouais, tu sais, j'ai lancé une boîte, machin, nana. Est-ce que tu connais pas un tel? La famille, elle est quand même là pour aider. Ouais. Dis, ah oui, c'est vrai, peut-être que j'ai quelqu'un et tout. Eh ben, est-ce que tu peux me recommander ou est-ce que je peux l'appeler?
De ta part.
Est-ce que je peux l'appeler de ta part? Marketing de réseau.
Ouais.
Souvent, j'en parle aux gens, je dis qu'ils n'ont pas d'idées. Ils me disent, t'as pas d'idées. Je dis, mais des idées, il y en a plein. Mais des idées, il y en a un milliard des idées.
Ouais.
Et tu peux, à la rigueur, si t'aimes bien une idée, à ce moment-là, apprends à vendre.
Ouais.
Tu vois? Donc, il y a toujours un moyen de faire des choses. Toujours un moyen.
C'est intéressant, franchement. C'est assez riche. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder et qui ne m'a pas abordé?
Pour une question, le sujet, en fait, ouais, c'est ça, c'est, bah, selon toi, en fait, moi, c'est plus une question que je te retourne. C'est, bon, moi, je sais pas si faut que je dise, mais c'est vrai que il faut être résilient et persévérant.
Ouais.
Tu vois? Je veux dire, là, je pense que c'est le bon moment pour faire passer le message pour la communauté.
Ouais.
Il faut, c'est important en fait de se dire qu'il faut qu'on s'unisse, qu'on se structure, et surtout que ceux qui sont déjà arrivés de la communauté, qui font déjà les millions, qui ont déjà structuré des choses et des beaux projets, qui travaillent à l'international, se montrent, qu'ils se montrent pour montrer l'exemple, qu'ils donnent les clés, parce que c'est que quand on aura des exemples justement qui se montrent, qui n'ont pas peur de dire que, ben voilà, moi, comment j'ai réussi, qu'est-ce par où je suis passé, est-ce que c'était facile, c'était dur, c'était peu importe, que, en fait, l'ensemble de la communauté va pouvoir se structurer. Moi, j'en ai marre de voir, en fait, que quand on parle effectivement de travailleurs, on va parler du chinois, on va parler du juif qui est puissant financier, on va parler des ricains, ça. Moi, j'ai envie que demain, on dise que, ouais, les afros, c'est pas, pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir, c'est pas, tu vois, mais les clichés, tout ça, moi, j'en ai ras la casquette, en fait.
Totalement, tu vois,
ras la casquette. Et le truc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour dire, regarde-moi, aujourd'hui, je suis pas riche, mais je gagne bien ma vie, tu vois. Le truc, c'est que j'ai mes locks, tu vois. Je suis black, ok, et je travaille avec des gens de toutes les couleurs. J'ai pas de problème. Par contre, je travaille pas avec les cons. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, faut être fier de soi. Dernièrement, j'ai vu effectivement que t'avais fait un podcast avec nos filles, tu vois. Tu vois, c'est symptomatique. Il y a des nouveaux projets qui se font. Voilà, il faut s'unir, il faut être ambitieux. Mais le truc, c'est que quand on est seul, on va vite, mais on va pas loin.
Ouais.
Donc, à un moment, il est temps maintenant aussi que qu'en Outre-mer, qu'en France et partout, effectivement, dans le monde où on se sent effectivement sans racisme, hein, mais par contre, en tout cas, qu'on se dise que voilà, il est temps de consolider des choses, de mettre des vrais ponts entre les Afro-Américains, entre les Caribéens, entre les Blacks de la diaspora qui sont en France, et des ponts aussi avec les frères aussi africains, et qu'on arrive à unir tout ça pour faire une vraie puissance économique.
Black Network est la solution. Et on en vient, ça fait la parfaite transition avec les questions de la fin. D'abord, qu'est-ce que ça t'apporte d'être membre de Black Network? Pourquoi t'as rejoint Black Network? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Écoute, pourquoi je rejoins Black Network? Parce que déjà, j'étais, comme je te dis, ça rentrait dans mes valeurs de fédérer. Donc j'attendais depuis un moment. Bon, moi, ça fait un moment que je suis de nombreux influenceurs. Alors, je suis pas d'accord avec toutes leurs méthodes et autres, tu vois. Je vais pas tous les citer. Parce que voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que par exemple, Philippe Simo, c'est quelqu'un machin. Tu vois, je suis Kémy. Alors, je suis pas d'accord avec toutes ses manières de faire.
Okay.
Mais ça reste quand même quelqu'un qui prêche des messages. J'aime le côté géopolitique, géostratégique. Il y a toi, effectivement, que je
moi,
suis.
Moi, je suis pas un influenceur, hein, par
rapport à toi. Non, je parle pas d'influence, hein, mais en tout cas, de personnes qui fédèrent.
Ouais.
Qui fédère, tu vois. Voilà, il y a pas mal de personnes, tu vois, il y a Safia, que j'aime bien aussi le combat qu'elle a pour effectivement sur la partie de l'Afrique.
Ouais, donc
voilà. Pour Grandeur Noire, voilà. Donc moi tout ça, j'aime effectivement quand on essaie de mettre en avant finalement ce que la communauté fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime et qui pousse à l'entrepreneuriat, qui pousse à se dépasser. Tu vois. Et pour moi, Black Network, eh ben rentre dans ces valeurs-là. Dans ces valeurs, c'est pour ça que je suis rentré dedans et parce que je me suis dit moi aussi j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, voilà, d'aider ben des gens de la communauté aussi, juste pour que on prenne notre place, quoi, parce que en réalité si on prend pas notre place, on a quelque chose à apporter au monde. En fait, moi le message final que je veux dire, c'est qu'on a quelque chose à apporter au monde qui est encore méconnu, pas assez connu.
Totalement.
Et de manière ancestrale, on le sait aujourd'hui, c'est que les Égyptiens, ils étaient blacks. D'accord? On sait que les premiers hommes sur Terre, on était tous noirs. Mais au-delà de la couleur, c'est plutôt le côté culturel qui mérite aujourd'hui d'être mis en avant parce que on a de belles choses à porter. Aujourd'hui, il n'y a pas plus humain et plus ancré avec la nature que quelqu'un qui vient d'Afrique. D'accord? Et aujourd'hui, à l'heure de la technologie, à l'heure de toutes les guerres, à l'heure de plein de choses, aujourd'hui, tout ça, ben, c'est en train de se perdre. Et le truc, c'est que je pense que la communauté noire, qui a ce contact particulier et singulier avec la nature, en fait, doit apporter aussi au monde, pour apporter un modèle nouveau, en fait.
Un modèle. J'ai envie de dire amen, hein, mais bon.
Un modèle nouveau, tu comprends?
Ouais, d'accord.
Donc, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est de dire, OK, tel modèle occidental, tel modèle chinois, tel modèle russe, modèle africain.
C'est ça.
Aussi, il doit aussi, quel est-il?
C'est ça qu'on travaille, hein. Quand je parle d'Ubuntu Business, quand on essaie de raviver nos penseurs, c'est pour ça aussi, pour permettre aux gens de découvrir comment on fait du business africain, quelles sont les valeurs particulières des Africains qu'on peut utiliser pour pas coloniser le monde justement, mais pour contribuer au maintien du monde.
Maintien, parce que si on prend pas notre place, le problème c'est que ce sera pas parfait. Si on est là pour quelque chose.
Totalement.
Donc, maintenant il est temps de le montrer. Mais il va falloir y travailler parce que ça viendrait pas tout seul.
Oui, d'accord.
Tu vois?
Oui, totalement d'accord. Autre question, la DCA, donc, comment ça fonctionne? C'est, on arrive n'importe quand, c'est des batchs, c'est-à-dire de 6 mois, où pendant les 6 mois, les gens peuvent arriver en cours, où est-ce qu'on a les informations, comment ça fonctionne?
Ok. Alors, la DCA, en fait, on a un grand lancement qu'on fait le 2 avril.
Ok.
D'accord. Donc, j'enverrai les informations, je partagerai effectivement sur Black Network.
Ouais.
Donc, le 2 avril, on fait un gros webinar.
Mm-hmm.
Donc, on va commencer la communication d'ici la semaine prochaine.
D'accord.
Pour justement le volet pour les entrepreneurs.
Okay.
Donc, ça va être la formation Vendeur 3.0.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi Vendeur 3.0? Parce que c'est le vendeur augmenté.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un, effectivement, qui aura toutes les techniques, tout l'accompagnement psychologique dont il aura besoin. Donc, il y a à travers le collectif, donc ce que j'appelle les master coach et le comité de pilotage.
Okay.
Faut savoir qu'on a structuré ça avec les associés, donc Alex, Morgan et moi, le comité de pilotage avec Jess, avec Jess qui est notre bras droit à tous et à toutes.
D'accord.
Et après les master coach avec William Béné qui est psychologue de métier, experte en épanouissement professionnel et personnel.
OK.
William qui lui est expert justement dans la vente terrain. Mm-hmm. Moi voilà qui ai mon expérience un peu globale d'entrepreneur et dans la marketing communication vente. Mm-hmm. Et du coup l'idée, voilà, c'est d'aider le maximum d'entrepreneurs, voilà, à déplafonner, on va dire, leur chiffre d'affaires, en les accompagnant sur quelles sont les problématiques de vente, notamment, surtout pour ceux qui sentent que ils ont une, comme tu disais, une problématique vraiment dans le fait d'aller vers les autres, où ils savent pas comment proposer leurs produits ou services, où ils sentent qu'il manque quelque chose dans le domaine commercial, marketing et vente. C'est-à-dire comment attirer des gens à eux, comment communiquer de manière efficace. Et comment, quand toutes ces personnes elles arrivent, que dire de manière précise pour pouvoir proposer sa solution et que les personnes aient l'honneur de travailler avec elles.
C'est ce qu'on aura, on va noter ça particulièrement. Et comment on fait pour te joindre, pour avoir des informations?
Écoutez, vous allez sur Digital Consulting Academy, Digital Closer Academy. Moi, aujourd'hui, je suis sur LinkedIn, Insta, donc j'ai ma chaîne YouTube aussi, donc GTips, sur laquelle je mets en avant l'entrepreneuriat toujours, puisque l'idée pour moi, c'est de toute façon, la valeur ajoutée du monde, en tout cas, c'est d'être apportée par ceux qui entreprennent.
Okay.
Que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine entrepreneurial pur, il faut proposer des choses, il faut être actif. Tu vois, donc voilà, moi j'ai ma chaîne là, et puis après sur les réseaux sociaux, et puis pour ceux qui sont sur Black Network, ben évidemment rejoignez Black Network, vous le trouverez.
L'élite est chez Black Network. En tout cas, merci Thierry, et ça a été un plaisir, j'ai beaucoup appris et ça a ravivé beaucoup de questionnements que je me pose toujours sur l'entrepreneuriat et particulièrement sur la vente. Ouais. J'espère que ça va être utile à notre communauté.
Bah écoute,
force à toi.
Un grand plaisir. Merci.
Merci, force. Merci. Ciao tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement, en tout cas, des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.